Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Daniel Rondeau. Alors, je devrais dire Monsieur l'ambassadeur, parce que c'est un titre qui reste comme les titres de ministre après la cessation des fonctions. Vous allez nous dire d'ailleurs comment vous avez géré ce retour en disant la République des Lettres. Hein. Je vous présente en quelques mots. Pour bien vous situer, mais je suis persuadé que les personnes qui sont là pour vous écouter, Monsieur Rondeau, vous connaissent et ont votre parcours en tête. Donc vous êtes né le 7 mai 1948, si j'ai bien lu, le même jour que votre maman.
Exactement. Hein,
dans un petit village de Champagne. Bon, on fera aucun reproche si on le connaît pas. Ça s'appelle Ménil-sur-Auger.
Enfin, un petit village, mais grand cru de blanc de blanc.
Voilà, voilà. et donc, vous aviez 20 ans en 1968. Et c'est un aspect important de votre parcours sur lequel on va revenir, même si vous en parlez pas dans votre journal, dans ces 20 ans et plus, puisque c'est aussi votre engagement politique qui est apparu ou s'est concrétisé à partir de 1968. Alors, vous nous livrez quelque chose de tout à fait remarquable qui, pour les besoins de la lecture, se trouve un peu bariolé comme un sapin de Noël, là.
Je le trouve magnifique, moi, comme ça.
D'accord. et qui s'appelle donc 20 ans et plus, ouais. Journal 1991-2012. Alors, je dis tout de suite que pour celles et ceux qui penseraient avoir un livre qui est déjà fort épais, qui fait avec l'index des noms 930 pages. Hein. Pour ceux qui penseraient trouver un livre avec chaque jour évoqué entre 1991 et 2012, vous allez être déçus parce qu'il manque deux années, hein, 2005 et 2006. Et puis sur 2004, il n'y a que deux jours. Mmh. Alors pour des raisons que vous avez expliquées, Monsieur Rondeau, qui sont liées à un accident de la vie.
Un accident domestique.
Voilà, de votre maison. Voilà, hein. Donc ça, c'est pour préciser. Je voudrais tout de suite commencer. Donc on connaît votre œuvre. Hein, vous êtes journaliste, vous êtes romancier, un grand romancier. Vous avez publié des livres tout à fait magnifiques sur certaines villes de la Méditerranée, en commençant par Tanger. Également avec Istanbul, et puis vous nous avez livré un très beau portrait de Malte où vous avez été ambassadeur pendant 3 ans. Je voudrais commencer par le tout début de votre livre, parce que vous dites dans l'introduction, qui est très courte, mon étonnement, en relisant vos notes, hein, puisque vous avez couché sur le papier tous les jours un commentaire sur, certains jours, sur l'actualité, sur un fait que vous avez vécu, un déjeuner, un dîner, des personnes, etc. Et puis vous avez laissé reposer, un peu comme on dit, laissé reposer la patte. Hein, ouais. Et puis, le temps que ça lève.
Hein, j'ai laissé vieillir.
Voilà, vous laissez vieillir.
En tonneau.
Hein, exactement. Et puis, vous n'avez pas soutiré grand-chose, hein, et vous avez tout livré. Et vous êtes vous-même étonné en relisant vos notes, en reprenant vos notes, vous êtes étonné. Vous dites tout de suite au début du livre, page 7, mon étonnement est de lire aussi dans ce journal la chronique d'un persistant chagrin français. Mon souci de voir notre pays s'écarter chaque jour un peu plus de son histoire, pendant ces 20 ans et plus, comme si une étrange corruption de la pensée avait fait de nous, entre guillemets, des apatrides culturelles, selon l'expression de Milan Kundera, peu à même de rendre ses ailes à notre Europe foudroyée. C'est un texte là, c'est très dense, hein, ça fait 5 lignes quand on recopie. Qu'est-ce que c'est ce chagrin français, Monsieur Rondeau, que vous voyez affaire de plus en plus?
Ce chagrin français, je pense que c'est celui qui nous touche tous depuis quelques années, quand il suffit d'écouter la radio ou la télévision, pour entendre chaque jour la même chose, c'est que nous sommes sur la pente du déclin, que la France va être le seul pays à ne pas repartir l'année prochaine, que beaucoup de nos jeunes gens, diplômés ou pas, quittent le pays parce qu'ils se sentent mal chez nous. Alors ce qui m'a surpris, ça, tout le monde, on le sait, on le partage, ce chagrin de voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous. Je pense que nous sommes un grand pays, nous sommes un grand peuple, nous sommes riches d'une histoire, nous sommes riches d'une culture, nous sommes riches d'une expérience mondiale assez unique. Nous sommes un pays, un des rares pays qui est eu et qui garde une vocation universelle, mais brusquement, on a l'impression qu'on s'écarte de nous-mêmes et qu'on est incapable d'être nous-mêmes. Alors, ce qui m'a surpris quand j'ai relu ce journal, si vous voulez, moi, j'ai pris des notes de septembre, 1er septembre 91 jusqu'au 31 décembre.
Jusqu'au décès de votre maman.
2012. Mmh. Bon, la mort de ma mère. Mmh. Et je n'avais jamais ouvert ces cahiers. Toutes les premières années, ce sont des cahiers Claire Fontaine, où j'écrivais sur des petites lignes, et je ne les avais jamais ouverts. Après, j'avais tapé à la machine, mais je n'avais jamais rien lu. J'ai décidé que j'allais démissionner de mes fonctions d'ambassadeur au début du mois de janvier 2012.
D'ambassadeur à l'UNESCO.
D'ambassadeur à l'UNESCO. J'ai démissionné, ça faisait 5 ans que j'avais l'honneur, puisque pour moi c'était un honneur d'exercer cette responsabilité, que je n'avais pas, on est venu me chercher en Champagne, dans ma solitude champenoise. J'ai accepté cet honneur, j'ai essayé de remplir complètement cette mission, d'occuper tous les terrains de l'influence française dans les deux postes que j'ai occupés. J'ai eu aussi 2 présidents, 3 ministres, c'est-à-dire que... on en reparlera tout ça peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, après 5 ans au service de mon pays, qui m'ont passionné, je ne me suis jamais ennuyé une seule seconde. Bon, si on exerce sa fonction d'ambassadeur complètement et passionnément, on n'a pas le temps d'écrire. Or, j'ai bâti toute ma vie, à part l'épisode du gauchisme, de l'engagement 68, j'ai bâti toute ma vie autour de mes livres. J'ai une vocation, j'ai reçu cette vocation. Ce mot, il est un peu solennel parce qu'il a une connotation religieuse, mais c'est quand même de cela qu'il s'agit. Je me suis entièrement consacré aux livres pendant toute ma vie, les miens d'abord, ceux des autres comme journaliste ou comme éditeur, mais bon... Et je me suis dit, au bout de 5 ans, il faut que tu te laisses dévorer. Parce que c'est aussi un charme. Il y a un charme quand on est ambassadeur. C'est passionnant, on est bien traité, on est bien considéré.
La soupe est bonne.
Non, mais ce n'est pas que la soupe est bonne. Il y a un charme autour de la fonction. Parce que c'est une fonction très particulière, très singulière. Et un écrivain n'est pas toujours aussi bien traité, même le meilleur soit-il, qu'un ambassadeur moyen. Donc je me suis dit, il faut que tu aies servi ton pays pendant 5 ans, mais maintenant, il faut que tu arrêtes pour retourner à tes livres. Donc j'ai écrit au président, c'était le 1er janvier 2012, j'ai écrit au président, oui, 2013, j'ai écrit au président Hollande une lettre pour lui dire que voilà, je voulais renoncer à mes fonctions, que ça faisait 5 ans. Que 5 années pleines, que j'aurais plus que 5 ans même, que j'étais ambassadeur. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, je voulais retourner à mes livres. Et 3 semaines après, une fois que j'étais sûr que le président avait pris connaissance de ma lettre, je suis allé voir le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pour lui dire la même chose. Donc, et je suis rentré chez moi, j'ai reçu le président Hollande. Il m'a demandé de faire un peu de rab pour l'accueillir à l'UNESCO, parce qu'il venait à l'UNESCO. Donc j'ai quitté l'UNESCO le 6 juin. Et le 7 juin, j'étais chez moi. Et le 7 juin, j'ouvrais ses cahiers et je tombais. Et dans les premières pages, très vite, dans les premiers mois, dans les premières années, je m'aperçois que ce sentiment de tristesse autour de notre pays...
Une sorte de mélancolie.
Cette mélancolie, elle flotte déjà, elle existe déjà dans les 100 premières pages du livre. Que donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, que nous sommes... même ce que je crois, c'est que les Français, nous, je parle de nous, hein, je ne me mets pas à l'écart de tout ça, je pense vraiment que nous sommes dans une dépression nerveuse grave qui dure depuis 30 ans et que nous avons traversé différents présidents, nous avons vécu avec différents présidents, avec différents hommes politiques, avec différents responsables, mais qu'aucun d'eux n'a réussi à nous sortir de cette mélancolie et qu'en gros on se dit nous n'avons pas de cap. Nous sommes un grand pays, donc c'est ça qui ajoute à notre tristesse. Nous savons que nous sommes un grand pays, nous savons que nous avons des raisons de croire en nous, et en même temps, nous doutons de nous en permanence, nous doutons de nos... Nous n'avons pas de cap, pas de vision à long terme, on a l'impression d'une sorte d'errance. Donc ce persistant chagrin, moi je le ressens profondément. J'ai toujours ressenti, dans tous mes livres, j'ai parlé de mon pays, que ce soit dans les romans, j'étais venu ici même pour parler de La Marche du Temps, qui était un grand livre sur l'histoire du... j'ai pas dit que j'ai écrit un grand livre, mais un très long roman sur l'histoire du XXe siècle. Et ça fait partie de mes préoccupations, comme je crois, énormément de Français.
C'est la venue ici, hein, page 550, c'est dans votre journal, 20 février 2003, c'est sibyllin, à Bordeaux, chez Mola. Page 550. Page 38, justement, c'est 3 mai 92. Donc on est, entre guillemets, pardon pour l'expression raccourcie, on est sous Mitterrand. Hein, 3 mai 1992, et on est avant la défaite pour le Parti Socialiste de 93. Impression que notre pays commence à se déliter, c'est exactement ce que vous dites. Daniel Halévy, donc le grand-père de Pierre Joxe, hein, il faut avoir ça en tête. Hein. Pierre Joxe avait comme papa Louis Joxe, hein, grand ministre du général de Gaulle, et son grand-père était Daniel Halévy.
Daniel Halévy,
grand historien.
Grand historien, très bon écrivain, oui. Camarade de lycée de Proust. Il y a des souvenirs d'Halévy très, très amusants sur Proust, parisien, et c'est quelqu'un qui a pour moi, dans ses visites aux paysans du centre, il a une connaissance très intime de notre pays.
Alors vous dites justement, Daniel Halévy avait fait l'inventaire des qualités de notre pays.
Ah ben, voilà.
J'en nommerai trois, le courage, l'ardeur civique, la capacité administrative. Alors j'ai fait un peu court. Sur le plan intérieur, vous continuez à écrire, l'ardeur civique est détricotée par le président lui-même, véritable libertin du pouvoir, qui nous replonge dans nos divisions et nos querelles. Mal français, dites-vous, ou mal François, point d'interrogation. Et précédemment, déjà, vous avez évoqué aussi le libertin politique qu'est François Mitterrand. Alors, vous avez réglé vos comptes avec François Mitterrand dans un livre publié en 94, alors qu'il était encore au pouvoir, Mitterrand et nous. Mais est-ce que vous confirmez que vous rendez Mitterrand très largement responsable
non,
de cette situation ?
Je ne le rends pas seul responsable, absolument pas. Ouais. Mitterrand, je me suis opposé à lui de son vivant, quand il était au pouvoir, immédiatement, dès que je suis arrivé à Paris. D'abord, pour une chose, c'est son amitié avec Bousquet. Je pense qu'il était trop proche de Bousquet, il ne s'est jamais expliqué sur cette affaire-là, et que c'est quand même, on ne peut rien fonder sur... Il y avait un mensonge autour de... on cachait leur amitié. Après, dans les derniers mois de sa vie, quand le président Mitterrand a décidé de préparer son avenir... post-mortem, il a donné lui-même les informations
à Pierre Péan.
Mais à ce moment-là, il était absolument interdit de parler de ça. Y compris, moi, j'ai des amis chers qui étaient de socialistes, de gauche, ou même des amis de droite, peut-être à l'exception de Jean-François Deniau. Il ne fallait pas parler de ça. Et moi, je n'acceptais pas je pense que c'est quand même assez...
Ce
tabou. Donc, c'est vrai que, si vous voulez, François Mitterrand, je dis que c'était un libertin du pouvoir, c'est-à-dire que...
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
L'homme, si vous voulez, il avait... C'est un personnage extrêmement complexe, François Mitterrand, qui a une très, très grande... conscience de sa liberté et qui a une très grande jouissance, me semble-t-il, j'emploie le mot jouissance qui renvoie au libertinage, dans la transgression de tout ce qui peut être tabou. Donc, il va jouir de son pouvoir de président. Enfin bon, on voit tout ce qu'il a, sa vie aujourd'hui, si on compare avec sa vie aujourd'hui, face à un closer, il ne tient pas 3 jours. Quoi. Donc, mais c'était aussi politique. Ce n'est bon, c'est pas sa vie privée qui me chagrine, forcément. Mais c'était le fait qu'il était prêt toujours à flirter avec des gens qui étaient très loin de lui et qui, de toute façon, lui rappelaient ses origines, puisque il s'échappe de son camp d'officier en Allemagne, de prisonnier. Et ce n'est pas pour aller rejoindre la résistance, c'est pour aller à Vichy. Donc, j'avais un ami qui était Roger Stéphane, qui a un mensonge sur ses origines. Il était de droite.
Même d'extrême droite.
Hein. Même d'extrême droite. Bon, on ne va pas refaire toute l'histoire de... Bon, en tout cas, voilà, ça m'a toujours un peu insupporté. Ce qui m'insupportait plus que ça, c'était le silence général autour de lui. C'est-à-dire, il régnait sur les médias. Quand j'ai écrit mon petit livre, silence total.
Alors qu'on est à la fin du règne.
Oui, silence total. Il faut que j'aille à RT en Belgique pour faire un journal télévisé. Et à ce moment-là, l'autre journal télévisé, c'était RTL et la RTB. Dès que je sors, l'autre m'appelle. Et les médias français, le jour de la mort de François Mitterrand,
vous appelle.
Tout le monde m'appelle. Et tout le monde me dit, ce soir, on vous prend comme invité spécial parce que vous êtes... Je dis non. Vous n'avez pas voulu de moi quand il était au pouvoir et vivant. Ne comptez pas sur moi pour aller cracher sur le cadavre. La page est tournée. C'est quand il était au pouvoir qu'il fallait oser parler. Bon, et d'ailleurs, François Mitterrand m'a...
Vous l'avez rencontré ?
Alors, non, je l'ai rencontré dès que je suis arrivé. Non, donc, moi, je suis arrivé à Paris venant de 10 ans, 12 ans de... Lorraine, j'avais été resté 4 ans donc,
à Permali.
Oui, pour expliquer. Donc, je suis happé par le mouvement de 68 et je décide
de vous établir.
Comme de m'établir, c'est-à-dire d'aller à l'usine. Je reste 4 ans à l'usine et 10 ans, 11 ans à Nancy, où je recommence à écrire en sortant d'usine. Et en fait, je suis appelé à Libération par Serge Ulli. Et tout de suite, naturellement, je me retrouve, je ne suis pas là depuis 15 jours, je me retrouve face à face avec François Mitterrand. Mais j'ai déjà...
Ça, c'est après 81, c'est ça, hein?
Oui, oui, c'est en novembre 82.
D'accord.
Bon, donc je l'ai rencontré plusieurs fois et j'ai décidé que je ne voulais pas, quand j'étais invité, je ne voulais pas aller le voir. Et puis après, il y a une tentative d'Hubert Védrine assez tard. Hubert Védrine m'a appelé un samedi après-midi, je le raconte. Pour me dire, je me demandais pourquoi il m'appelait un samedi après-midi. Il me dit, mais Daniel, on parle. Et puis on parle de François Mitterrand. Puis il me dit, oh, de toute façon, vous ne voulez pas le voir. Et là, je me suis dit, je vais changer d'avis. Je vais le voir et je ne me laisserai pas avoir par lui. Et j'ai dit, oui, non, détrompez-vous, Hubert, je suis prêt à le voir. Et en fait, j'avais oublié que j'avais préparé un grand article sur la politique extérieure du président, sur la Bosnie, le Liban, qui est sorti 4 jours plus tard. Et puis là, François Mitterrand, quand il a lu ça, il a dit « Ah non, franchement, décidément, ce rondeau me fatigue, je ne veux pas le voir. » Donc voilà, donc j'ai jamais vu.
Alors, toujours dans le livre, justement, vous évoquez... cette époque où, avec vos amis maoïstes. Alors, il y a deux passages. C'est pas le centre du tout de votre journal. En juin 93, vous dites un numéro spécial de Libération pour ses 20 ans. Après, je vous poserai une question sur qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Libération aujourd'hui. Mais un numéro spécial de Libération pour ses 20 ans. On nous présente le lecteur type de Libération. Ouais. Il a 40 ans. Il a été mao et mitterrandien. Sans jamais rejeter aucun de ses choix. Impossible. Les Mao n'ont jamais vraiment pu croire en Mitterrand. Sauf deux exceptions peut-être. Jesmar, qu'on a connu parmi les trois de 68. Bon, il faut dire qu'il est devenu inspecteur général de l'enseignement.
Bien sûr.
Syndicaliste universitaire. Et Philippe Barret, qui lui était nain. Tous vos amis n'ont jamais été touchés par la grâce mitterrandienne ?
Non, beaucoup, si vous voulez, il y en a qui sont devenus. Je parle d'un autre ami qui était à l'usine avec moi, qui s'appelle Cus. Voilà. Un type que j'aime beaucoup. Bon, il est resté à Nancy, il est éducateur, il a milité. C'est un militant né Donc, naturellement, il est allé au Parti Socialiste. Bon. Ah oui. Donc, comme l'a dit, moi, j'ai souvent demandé à des gens, mais pourquoi ? Et bon, en gros, c'est seul Mitterrand est capable d'emmener le Parti Socialiste à la victoire. Donc, voilà, soyons réalistes. On ne l'aime pas, mais c'est le seul qui va nous emmener à la victoire. Donc, il y en a forcément quelques-uns qui l'ont été, mais je pense de cœur assez peu.
Alors, il y a une figure que vous évoquez au détour d'un petit passage, je vais essayer de retrouver ça, c'est Robert Linard. Alors, vous avez une phrase qui est elle n'est pas méchante, mais
non, elle n'est pas méchante.
Pas très sympa sur sa fille.
Ah, hein.
Janvier 94, lettre de fille à papa Mao. Bon, c'est Virginie Linard dont il est question. Elle a écrit un beau livre sur son père quand même.
Oui, mais bon.
Alors, présentez un peu.
Non, Robert Linard,
parce que c'est quelqu'un de tout à fait.
C'est un des premiers qui est de nos amis qui soit parti à l'usine avant 68. Oui.
Et disciple d'Althusser, 63-68.
Oui, voilà. Et qui a écrit un très beau livre,
L'Établi.
Sur cette période, et qui après a disparu de la circulation.
Ben, il devient mutique, hein, il est quasiment. Dans un état psychologique, pour ne pas dire psychiatrique, extrêmement compliqué. Il ne parle pas pratiquement.
Non, mais ça fait longtemps qu'il ne parle pas. Donc, bon, moi, je l'ai connu. Il est venu chez moi. Je raconte qu'il venait en Lorraine. Je l'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'affection pour lui.
Et, comment vous expliquez ces trajectoires de maoïste dont vous avez été ? Vous parlez d'Olivier Rollin, qui était quand même à la tête plutôt de la branche armée des maoïstes, lui. Hein, c'était. La branche un peu costaud, enfin.
Oui, bon. Moi je dirais que.
Comment vous expliquez cette trajectoire où il y a eu quand même un certain nombre qui ont sombré un peu dans la folie ?
Bah, je pense que nous, notre expérience est une expérience totale. Je parle même beaucoup plus totale pour nous à l'usine que pour ceux qui dirigeaient la branche armée tranquillement du quartier latin. Si vous voulez. Non, mais sérieusement, non, mais je réfléchis à ça depuis plusieurs mois.
Oui.
Parce qu'en plus, on m'a demandé un texte.
Par exemple, par rapport à Béni Lévy, vous avez.
Non, mais Béni Lévy, Béni Lévy, c'est une grande figure.
Oui, oui,
c'est autre chose. C'est un grand intellectuel. Oui, oui. C'est un messie. Donc, il a été le messie de la Révolution. Après, il a été le messie, puisqu'il s'est converti au judaïsme. Donc, pour moi, c'est un. C'est un grand esprit, une figure. D'abord, c'est une sorte de génie oral. On rencontre peu de génies oraux. Et je me souviens d'une phrase de Malraux parlant de Bernard Grotthuyssen, je ne sais pas si c'est qui était un philosophe ukraino-balte. Et Malraux dit j'ai rencontré Grotthuyssen, une sorte de génie oral. Or, bon, Malraux s'y connaissait en génie oral, naturellement. Et quand j'ai vu Béni, moi, j'admirais, il nous tenait sous son emprise de son verbe. Ouais. Il était tellement éloquent, il avait une telle puissance, on était frôlé par l'aile de la parole, quoi. Bon, donc c'était quelque chose, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui est à part, si vous voulez. C'est un apatride, juif, égyptien, arrivant ici, bon, une sorte de génie intellectuel, quand même, grande. Attends, parlons peut-être pas de génie, mais une puissance intellectuelle hors norme et qui va se trouver à la tête de ce mouvement comme un messie, puisque la révolution, c'est aussi. La révolution peut être aussi un messianisme. Bon. Je dis que je crois sincèrement que parmi nos camarades de cette époque-là, ceux qui sont allés à l'usine, c'est quand même ceux-là qui ont été touchés par le. Qui ont pu être abîmés, blessés par l'intensité de notre engagement.
La violence.
Oui, puis bon, on travaillait toute la journée, on militait la nuit. Bon, on y croyait totalement et en même temps, on était, je pense, moins fous que d'autres puisqu'on devait revendiquer tout ce qu'on faisait dans notre atelier tous les jours. Donc, ça nous mettait des garde-fous et bon, pour moi, ça reste, c'était pas une expérience. Quand je suis parti, j'allais pas faire une expérience. Je suis resté quasiment 4 ans, mais ça reste quelque chose. Enfin, j'ai beaucoup appris, quoi.
Alors, on les retrouve, ces amis maoïstes, dans deux grands engagements, surtout un qui va être le vôtre lors de la Bosnie, hein, avec un certain nombre de camarades de lutte ou de compagnons de lutte, on va dire. Je voudrais évoquer avant deux figures. L'une, c'est celle d'André Malraux, l'autre, c'est celle de Roger Stéphane. Et forcément, les deux sont liés quelque part.
Bien sûr.
Alors, j'ai retrouvé dans mes archives, bon, c'est un dossier que j'ai, c'est un sujet que je donne à mes étudiants, sujet de grand oral de Sciences Po, un article de vous qui est extrait du Monde, dans le numéro spécial du Monde des livres, lors du transfert des cendres de Malraux au Panthéon.
Oui, je me souviens.
Et c'est le grand papier que vous avez fait de Malraux. Vous en parlez dans le livre. Hein. Mmh. Ça s'appelle « Métamorphose d'un revenant ». C'est un très beau texte.
Bah, moi, je ne l'ai plus, moi.
Et c'est 22 novembre 96. Vous l'avez plus, mais je vous le
rappelle. Non, il faut le garder.
Et alors, vous citez souvent Florence Malraux. Qu'est-ce qui est, pour vous, le plus fascinant chez Malraux dans le personnage, on pourrait en faire rester des heures à en parler. Mais...
Non, ce qui est le plus fascinant pour moi, ce qui me... D'abord, c'est son œuvre d'écrivain, c'est-à-dire que j'admire avant tout l'écrivain. Je pense qu'il y a de très très grands livres, les romans, mais même les Antimémoires, qui sont un livre extraordinaire, que vous pouvez le regarder aujourd'hui, l'ouvrir. Et d'autre part, même des petits livres, par exemple, c'est dans... C'est pas dans Les chaînes qu'on abat, c'est dans un autre petit livre où il est sur les traces d'Alexandre. Moi, je me suis beaucoup intéressé à Alexandre le Grand parce que quand j'ai écrit un petit livre sur, j'ai écrit sur les trois portes de la Méditerranée, donc sur Alexandrie. Et quand j'étais à Alexandrie, j'ai pensé aux Alexandries les plus lointaines qu'avait fondées Alexandre. Il est allé jusqu'en Asie, jusqu'au mont Tian Shan, pour fonder les Alexandries. J'ai décidé que j'allais aller voir s'il restait quelque chose d'Alexandre à Khojent, la dernière ville qu'il a fondée, qui s'appelait l'ancienne Leninabad. Et en fait, j'ai retrouvé le souvenir d'Alexandre vivant dans ce peuple tadjik ou ouzbek, c'est-à-dire que les gens nous disent Alexandre est passé là, il y a des casernes, on appelle ça les casernes d'Alexandre, enfin bon, je veux dire, dans la poésie, chez les bardes tadjik, il y a le plus grand barde tadjik, il a une chanson sur le... Il va de village en village, il raconte l'épopée d'Alexandre, donc tout ça m'a beaucoup intéressé, et en même temps, naturellement, j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur Alexandre le Grand. Et ce petit livre de Malraux, je vois que la Malraux, il a une acuité quand il va parler d'Alexandre. Je ne sais pas si vous voyez de quel...
Si, mais je me souviens.
Il y a une acuité. Bon, je me dis, vraiment, il est incroyable. Il comprend totalement ce qui est en train ce qui s'est passé du temps d'Alexandre avec ce Macédonien de 20 ans qui est parti pour non pas seulement fourrager l'Asie, mais pour faire l'inventaire du monde. Donc voilà. Bon, par ailleurs, ce qui me plaît aussi avec Malraux, c'est sa proximité, cette façon de tutoyer l'histoire à côté de Gaulle. Ça nous fait, on est dans une épopée immédiate. Bon.
Alors. Celui qu'il a effectivement bien connu, donc c'est Roger Stéphane, hein, autre figure. Roger Stéphane, à 20 ans, 22 ans, enfin 20 ans, il libère pas la préfecture de police de Paris avec Gérard Philippe, on l'oublie souvent. La mairie de Paris avec Gérard Philippe, hein, oui. Qui a 2 ans de plus que lui, je crois.
Oui, hein. C'est un épisode totalement...
Ils sont 36, un truc comme ça.
C'est un épisode stendhalien. Bon, je ne sais pas si le nom de Roger Stéphane vous dit...
Son vrai nom, c'est Worms.
Hein, oui, mais enfin bon, c'est Roger Stéphane qui était connu. Bon, il a été un journaliste. Il était journaliste avant la Deuxième Guerre. Il avait 17 ans. Il était journaliste à Paris Match. Et là, il s'est engagé contre les accords de Munich. Bon, ensuite, pendant la guerre, il était... Bon, tout de suite, c'était un fou de littérature, jeune homme fou de littérature, très vite proche de Gide, de Monterland, de Roger Martin Dugard, qui va aller voir à Nice tous ces gens quand ils sont réfugiés en 40, après le début de la guerre. Et lui, contrairement à ses grands aînés qu'il admirait, c'est quelqu'un qui avait une réelle capacité d'admiration, contrairement à ses grands aînés, il va rentrer dans la résistance. Il va d'ailleurs être arrêté 2 fois, il va faire de la prison et ensuite il sera libéré. Et il se trouve que, quand je dis que c'est un épisode stendhalien, il se promène avec Cocteau, à bicyclette, près de l'hôtel de ville, il y a des tirs. Je crois que Cocteau se sauve. Stéphane reste, regroupe quelques jeunes gens qui sont là, dont Gérard Philippe.
Dont le père était un fief collaborateur. Oui.
Roger Stéphane aimait les beaux garçons. Et avec quelques jeunes gens, il se présente à l'hôtel de ville, il dit « je viens prendre l'hôtel de ville ». Et il va prendre, il va révoquer le préfet qui était là. Enfin bon, ça, et c'est stendhalien, parce que ça arrive comme ça, comme dans un roman. Non, mais quand même, il l'a fait. Et c'est à mettre à son crédit. C'est un épisode absolument incroyable.
Quand Frédéric Mitterrand vous a rencontré dans Jour de Fred récemment, là, il a fait cette citation tout à fait amusante. Roger Stéphane dit au général de Gaulle, je suis communiste après-guerre, hein, je suis communiste, homosexuel, gaulliste et je ne sais plus le quatrième, anticapitaliste, je crois. Mmh. Et de Gaulle lui dit, Stéphane, est-ce que vous ne croyez pas que vous chargez un peu trop la barre? Non, c'est assez amusant comme phrase. Mais alors donc, Roger Stéphane va être un grand producteur de télévision. Enfin,
oui, il va faire des émissions extraordinaires. Oui, oui. J'y pensais d'ailleurs tout à l'heure en venant. Je pensais à lui. Je pensais qu'il fallait que je récupère chez moi. Il a fait ses émissions avec Georges Duby sur le Moyen-Âge, le temps des cathédrales.
Oui, oui.
Je ne sais pas si ça...
On va en parler de Duby parce que vous en parlez très, très bien dans votre journal.
Et il y a aussi des interviews. Il y a une interview magistrale avec un entretien avec Malraux qui dure deux heures. C'est éblouissant. Alors, Stéphane se fait de temps en temps un petit peu moucher par Malraux, mais quand même, il revient, il repose ses questions, et c'est absolument formidable. Et puis, il a fait, ce que j'allais oublier, cette série qui s'appelle Portrait Souvenir, dont un portrait souvenir sur Proust, que vous pouvez voir sur l'INA. Enfin, vous savez, quand on regarde les... On trouve tout ça très facilement et je crois gratuitement. C'est très bien. Par ailleurs, il avait écrit des livres, Portrait d'un aventurier, enfin bon. Et moi, je l'ai rencontré quand je suis arrivé à Libération et j'avais décidé que je voulais rompre un peu avec le phénomène de génération du gauchisme, que je voulais prendre des gens qui soient plus âgés, que ce ne soit pas forcément des gens qui aient tous 30 ans. Donc j'avais fait écrire trois personnes, Roger Stéphane, André Thirion, Révolutionnaire sans révolution, qui est un des grands livres sur cette période, et puis un écrivain moins connu qui s'appelle Georges Navel, mais qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Travaux.
Alors, sur Roger Stéphane, c'est une histoire qui est absolument tragique parce qu'il vous annonce son suicide. Hein, il dit qu'il va se suicider. Il se suicide autant parce qu'il n'a plus un sou, hein, que par maladie. Et pratiquement, vous êtes immédiatement prévenu au moment de son suicide.
Non, mais c'est une histoire étrange parce que moi, je décide de faire écrire Stéphane dans les pages de Libération. Je lui commande un papier sur le Goncourt de Malraux pour les 50 ans, je pense, ou les 60 ans de ce Goncourt. Et il me rend un papier, je le fais par téléphone. Et ce papier, d'ailleurs, le lendemain, les gens sont très heureux de voir que Stéphane écrit. Enfin, voilà, on gagne des lecteurs, quoi. Et on élargit notre influence. Et Stéphane, qui était un peu tricard à cause de Mitterrand, parce que François Mitterrand, il a fait une interview de François Mitterrand, il lui avait dit, François Mitterrand, depuis quand êtes-vous de gauche? Bon, donc, qui a été coupé à la... par Georges Chiliou dans les archives de l'INA, cette question. Mais et du coup, ça le remet en selle. Bon, à ce moment-là, quand je le rencontre, pour moi, je le trouve très sympathique, très vivant, très alerte, mais en même temps, je me dis, c'est un vieux monsieur, c'est un vieillard. Il a mon âge, hein, donc, aujourd'hui. Donc, mais il est remis en selle, et immédiatement, il m'appelle, il me dit, monsieur, j'aurais vous invité à déjeuner, et bon, il ne se rendait pas compte qu'à Libération, nous vivions sans argent, je travaillais de 9h du matin à 10h du soir, que je ne pouvais pas quitter le journal, que j'envoyais 16 pages tous les matins. Bon. Et il me rappelle plusieurs fois pour me dire, mais je voudrais quand même vous inviter à déjeuner. Bon. Et, Un jour, je lui dis, écoutez, Roger, je crois que vous ne saisissez pas bien les conditions de notre existence de journaliste, jeune journaliste, mais venez dîner un soir chez moi, vers 9h15, 9h30, je rentrerai plus tôt. Et il arrive chez moi, donc je l'accueille avec ma femme, et vous savez, il se passe une chose qui nous arrive à tous, on commence à parler et on s'aperçoit qu'on est d'accord sur tout. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'on rencontre un ami. Donc, on parle de choses et d'autres, on est d'accord. On a les mêmes références. Il ne savait pas que j'avais une passion pour Malraux. Enfin bon, voilà, tous nos auteurs, on parle de littérature, de politique. Et puis, et ce soir-là, il m'avait apporté un petit livre en cadeau, qui était le récit secret de Drieux-La Rochelle, qui est le récit de Drieux sur son suicide. Et il me dit, monsieur, il m'appellera monsieur jusqu'à sa mort.
Jusqu'à la fin, oui.
Il me dit, monsieur, je vous donne ce petit livre parce que quand le temps sera venu, je me suiciderai. Bon, à ce moment-là, on est en train de dîner, de boire un bon champagne. On entend ce qu'il dit. Et il me dit aussi, il me parle, je l'interroge sur ses émissions de télévision, et il me dit qu'il a enregistré, qu'il a 20 heures prémontées d'interviews des premiers
Français libres
qui ont gagné Londres tout de suite, quoi. Je lui dis, mais attendez, Roger, qu'est-ce que c'est que ça? Vous laissez dormir ça? En fait, il avait beaucoup travaillé pour faire cette émission. Et puis après, bon, c'était un esprit un peu papillonnant, il était passé à autre chose. Il avait eu l'accord du général de Gaulle. Et ce soir-là, il me dit, mais monsieur, si ça vous intéresse tant, c'est vous qui finirez ça un jour. Bon. Et en fait, un, il s'est suicidé. Et deux, la veille, le jour où il m'annonce qu'il va se suicider le lendemain, il me dit, monsieur, est-ce que vous finirez le travail que j'ai jamais eu le courage de finir?
Il vous donne tout, il vous donne les trois tapuscrits.
Il met un tapuscrit.
Une bouteille de champagne par-dessus.
Il met une bouteille de champagne et je lui dis à vos ordres, commandant Stéphane.
Capitaine.
Oui, en fait, je crois que j'avais dit.
Ah, lui, vous dites capitaine.
Oui, parce qu'en fait, j'appelais comme commandant, je lui donnais un peu plus, quoi. Et il m'a dit au revoir, c'était tragique. Il habitait un petit appartement rue Psicari, près de l'avenue de la Tour Maubourg, à Maud Piquet. Et lui qui était toujours un nœud papillon, tiré à quatre épingles, il n'était pas rasé, son col était ouvert. Et il m'a dit, il m'a pas dit au revoir monsieur, il m'a dit au revoir fils. Ouais. Voilà. Il ne m'a pas raccompagné. Et le lendemain, c'était un samedi, le dimanche matin, à midi, on a reçu un coup de fil pour nous dire qu'il était mort, digitalune plus revolver.
Alors vous croisez des personnages absolument étonnants. Pamela Harriman, ambassadrice des États-Unis de 93 à 97, qui meurt brutalement
dans la piscine du Ritz
en nageant. Hein. Et c'est la femme de Salinger qui vous apprend. Enfin,
oui, oui. Hein, c'est ce que, non, c'est mais bon, ça. J'avais croisé Pamela, on est devenu.
Alors, Pamela, il faut dire quand même que ça a été une vie extraordinaire.
C'est une aventurière de très haut vol.
Vous pouvez dire quels ont été ses maris, parce qu'il y en a au moins deux.
Incroyablement sympathique.
Voilà, deux célèbres.
Incroyablement sympathique. Elle a épousé le fils Churchill, Randolph, avant la guerre. Donc, elle m'a raconté, quand le dimanche à Londres, quand Churchill rentrait pour le déjeuner, il disait tout de suite, attention, il faut ajouter un couvert parce que le général de Gaulle vient déjeuner avec nous. Il ajoutait à sa femme, mais faites attention parce qu'il est de mauvaise humeur en plus.
Bon, elle parlait très bien français, Madame Churchill.
Oui, très bien. Bon, donc, après la guerre, Pamela
divorce,
quitte le fils Churchill. Et là, elle va mener une vie de jeune femme libre sur le continent européen, notamment à Paris. Elle va multiplier les conquêtes. C'est une fille extraordinairement belle. Quelqu'un qui travaillait, la directrice de la boutique Dior, m'a dit, elle m'a appelé, elle était en train d'essayer un maillot de bain. Je suis arrivé, elle était nue et j'ai vu la Vénus de Botticelli. Comme. Donc elle va vraiment multiplier les conquêtes. Elle va, je ne sais pas les énumérer, mais le Gotha se précipite à sa porte.
Dont Agnelli.
Agnelli, elle s'est convertie. Elle m'a dit, je me suis converti au catholicisme pour Gianni Agnelli.
Pour Gianni.
Elle voulait l'épouser. La famille Agnelli a dit niet. Comment. Mais ils étaient tous là le jour de sa mort, de son départ. Après sa mort, tous ses amants étaient là Premier rang pour les
à la résidence, alors c'est dans les États-Unis, ouais. Bon, en haut de des Champs-Élysées. Enfin, voilà.
Il se trouve qu'un jour, une amie qui s'appelle Corinne de Villemorin, qui habite à Verrières, chez Villemorin, m'appelle et me dit: viens dîner avec ta femme samedi. J'ai invité Pamela Riemann, elle était très liée. Et j'arrive, il y avait, bon, c'est un dîner de 25 couverts. Je vois qu'il y a des ministres, académiciens, des gens beaucoup plus importants que moi. Et souvent beaucoup plus âgée. Et je vois le plan de table et je vois qu'elle m'a mis à droite de Pamela Riemann. Donc je vais voir ma maîtresse de maison. Je lui dis: écoute, tu vas pas me mettre à droite de Pamela Riemann, c'est ridicule. Elle dit: je suis la maîtresse de maison, je fais ce que je veux. Bon. Je suis à droite de Pamela Riemann, on passe à table. Pamela se tourne vers son voisin de gauche. Elle lui fait un petit frais pendant une minute. Puis ensuite, elle se tourne vers moi. Elle commence à parler. Et on a arrêté de parler à la fin du dîner. Et moi, je lui ai parlé de la Bosnie, parce qu'elle parlait à Clinton. Donc, à ce moment-là, je me battais pour Sarajevo, pour la Bosnie. Et en sortant de table, la maîtresse de maison me dit: mais c'est insensé, tu m'as pourri mon dîner. Tout le monde est furieux, personne n'a pu lui parler. Et bon, ça, c'est un samedi soir. Et le lundi matin, je suis en train de travailler, je reçois un coup de fil. Hello Daniel, qu'est-ce que tu fais pour le déjeuner? Et je dis: je vous invite à déjeuner. Et je suis devenu, elle disait c'est mon jeune homme, parce que bon, elle m'a invité à déjeuner pour discuter de politique. Elle était passionnée.
Donc elle avait épousé Avril Harriman.
Oui, un milliardaire qu'elle avait connu pendant la guerre, avant d'être divorcée. Enfin, je ne suis pas rentré dans tous les deux. Je ne les connais pas tous.
Alors, elle était aussi friande de toutes les histoires, on dirait aujourd'hui people sur Paris. Hein. Ça faisait partie de son job aussi d'ambassadrice.
Oui, et politique aussi. Elle voulait savoir. Elle voulait m'arracher les trucs.
Elle se régalerait bien aussi aujourd'hui, sans doute.
Sans doute. Mais je disais, j'essayais de m'extorquer des trucs, par exemple pour le Liban, parce que je m'étais battu pour le Liban. Et donc, j'étais allé plusieurs fois à Chirac.
Chez Villepin.
Qui était mécontent de moi. M'avait appelé pour me parler du Liban et que j'avais tort et tout ça. Et quand je revenais, elle m'appelait, elle me dit: tiens, tu veux pas venir déjeuner? Et puis elle me dit: alors qu'est-ce qui t'a dit, Chirac? Je dis: je te dirai jamais tout ça. C'est pas la peine de me demander.
Alors on pourra encore en voir plein d'autres. Il y a une visite, une audience chez le pape Karol Wojtyła qui est tout à fait émouvante. En 2003, hein, donc c'est deux ans avant sa mort. Hein.
C'est au début de la guerre en Irak.
Voilà, c'est ça.
Après le discours de l'ONU de Villepin.
Il est mort le 2 avril 2005, donc c'est tout juste deux ans avant sa mort. C'est très émouvant parce que vous racontez que vous avez été à Varsovie en 81, pendant l'état de siège, donc c'est le 13 décembre 81. Oui. Et puis, vous évoquez Nowa Huta.
Hein, parce que quand j'arrive, pour expliquer, moi je passe environ 7 ou 8 ans, même plus, enfermé chez moi, en Champagne, pour écrire ce livre que j'étais venu présenter ici, ce roman qui s'appelle « Dans la marche du temps ». J'écris d'autres livres aussi, mais je suis vraiment... C'est ça qui va me... Une histoire, un roman un roman d'histoire sur le XXe siècle. Et en 2003, je n'ai pas fini. Je suis pas loin de la fin, mais je n'ai pas fini. Et au début de cette époque-là, je reçois un coup de fil de Villepin qui me dit: sors de ton trou, j'ai besoin de toi. Alors moi, naïvement, je lui dis: tu veux que je vienne quand demain à 3h Oui, viens demain à 3h dans ton bureau. Je crois que j'arrive à 3h et qu'à 5h, je serai reparti, je rentre chez moi directement. Et en fait, je suis resté plus de 2 mois avec lui et il m'a demandé de l'accompagner partout où il allait, pour essayer de contrer l'idée du clash des civilisations. Donc, on est allé d'Helsinki, Madrid, Rome, Ankara, Londres, pour commencer déjà, Ankara, Téhéran, Damas, Beyrouth, Riyad, enfin, on a fait vraiment... Bon. Et moi, j'étais une sorte de... personnage invisible, parce que j'avais aucun titre, mais j'étais là tout le temps. Et quand on arrive chez le pape, c'est une audience après-midi, le pape ne donnait jamais d'audience après-midi, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et Villepin s'enferme avec le pape, comme c'est normal, pour avoir un échange, premier échange. Et moi, on attend la délégation. Dans la délégation, il y a Bruno Le Maire, qui était à ce moment-là au cabinet de Villepin.
Directeur de cabinet, ouais.
Il y a un diplomate qui s'appelle Valero, qui est maintenant notre ambassadeur à Rome, à Bruxelles. Il y a notre ambassadeur au Vatican, qui s'appelle Robert Morel, et sa femme. Il y a la femme de Villepin, Marie-Laure de Villepin.
Qui veut faire bénir ses chapelets et qui n'y arrive pas. Ouais.
Et il y a moi. Et on attend, on est à l'extérieur du bureau du pape, et je demande à notre ambassadeur, Morel, je lui dis, mais à ce moment-là, j'avais jamais été ambassadeur, je ne pensais jamais que je serais ambassadeur un jour, hein, naturellement. Et je lui dis, monsieur l'ambassadeur, comment dois-je me comporter devant le pape? C'est la première fois que je rencontre un pape. Il m'a dit, surtout, vous ne dites rien. Vous entrez, vous agenouillez, vous baisez l'anneau, vous allez vous asseoir à ma gauche. Très bien, monsieur l'ambassadeur. Et puis, j'avais un copain qui était prêtre.
Serge.
Louis de Romanet, qui est le frère d'Augustin de Romanet, qui a dirigé, qui était au Trésor, qui a dirigé la Caisse des dépôts, et qui était prêtre au Vatican à ce moment-là. J'y avais passé un coup de fil en arrivant, en disant... Et je lui dis, et toi, tu confirmes, comment je dois... Il me dit, tu fais ce que tu veux. Et en fait, j'avais préparé pendant tout le voyage une petite phrase dont j'avais parlé à personne pour essayer de dire au pape comment j'étais là. Parce qu'il n'y a jamais de hasard, vous êtes bien d'accord. Donc, il fallait qu'il puisse comprendre pourquoi j'étais là. Et je voulais parler de Lustiger, parce que j'étais très proche de Lustiger. J'ai fait beaucoup de choses avec lui, pour le Liban, notamment.
Pour la Bosnie.
Pour la Bosnie. Et je voulais parler d'un prêtre, d'un père dominicain, qui est un historien, qui était un très proche, et du curé de mon village. Donc, j'avais essayé de bricoler une phrase très courte, et pour lui dire... Bon, et brusquement, la porte s'ouvre, tout le monde rentre, Bruno Le Maire, Valero, l'ambassadeur, sa femme, Marie-Laure de Villepin. Moi, je reste derrière, je regarde comment ils font. Ils s'agenouillent, ils baissent l'anneau, ils vont s'asseoir. Bon. Je rentre, j'arrive devant le pape, j'oublie totalement ma phrase. Et je lui dis à Saint-Père, comme je suis content de vous voir, j'étais à Nova Uta, en 81.
C'est un quartier de Cracovie. Hein.
Oui, c'est un quartier, c'était la métallurgie, c'était Solidarnosc, c'était le cœur de Solidarnosc. À ce moment-là, je sens un coup de poignard virtuel de l'ambassadeur. Je ne m'agenouille pas, je ne baisse pas l'anneau. Bon, je vais m'asseoir. Le pape est à ma place. Imaginez que le pape est à ma place. Villepin est à sa droite, Marie-Laure de Villepin, Bruno Le Maire. Et à sa gauche, il y a l'ambassadeur Valero, moi et sa femme. Dès que tout le monde est assis, Jean-Paul II péniblement tourne le dos
très malade
à Villepin. Il avait un fauteuil avec deux solides accoudoirs. Et il dit, alors, on était à Nova Uta en 81. Je dis oui. Et je lui explique que j'avais loué une camionnette pour emmener des vivres et des médicaments au Solidarnosc, qu'on a traversé l'Allemagne, c'était l'Allemagne de l'Est, que ça a été terrible, qu'on s'est fait... les Vaupeaux nous ont cassé les pieds. Et j'ai dit, heureusement, on a trouvé une très bonne table en arrivant à Cracovie, la table des Dominicains, parce que c'était notre point de chute, c'était eux qui ils accueillaient les dons. Ah, il dit oui, très bonne table. Bon, à ce moment-là, 3 ou 4 coups de poignard de l'ambassadeur. Et Villepin est le seul à se marrer. Et il prend la parole, il dit, mais Santé, je vous avais dit, c'est un immense écrivain français. Bon, enfin, voilà, donc... mais il est allé aussi à Sarajevo. Ah, vous êtes aussi allé à Sarajevo. Et je dis, Santé, avant d'aller à Sarajevo, on va en parler. Mais avant, je suis allé à Beyrouth. Et je vous ai écrit de Beyrouth. Malheureusement, vous n'avez jamais reçu ma lettre. Parce que ma lettre a été interceptée par des services du Vatican. C'était au moment où le Liban était sous les bombes syriennes, que tout le monde lâchait le Liban sur injonction américaine. Et moi, le dernier jour avant de quitter Beyrouth, j'ai écrit au pape. Et bon, je sais. Bon, puis après, il me parle de Sarajevo. Et il se remet. Ça dure assez longtemps. Ça a d'ailleurs été filmé parce que la télévision japonaise a récupéré les bandes du Vatican. C'est assez incroyable. Et quand tout est c'est fini, il dit, eh bien, vive la France. Et moi, je me lève et dis, viva el papa. Le pape se marre. J'ai 50 coups de poignard d'ambassadeur, mais je ne les sens pas. Et l'audience est terminée. On sort. À ce moment-là, Marie-Laure de Villepin me dit, t'es quand même gonflé, moi j'ai amené tous mes chapelets là, pour les faire bénir, on ne peut rien faire bénir avec quand t'es là. Villepin se fâche, je lui dis, t'avais qu'à faire comme lui, il a préparé son coup. J'avais préparé autre chose, mais pas ça. Et donc, bon voilà, c'était un petit...
Voilà, page 559, avec ce très beau commentaire à propos de Jean-Paul II. Sa vie fut un combat, le communisme, le terrorisme, la maladie, les guerres, il connaît, rien de défaitiste chez lui, au contraire. Rien de pacifiste non plus. Il n'est pas négligeable qu'un homme de sa trempe qui a connu l'élection avec un E majuscule du peuple juif, qui a reconnu l'élection du peuple juif, refuse de croire au choc des civilisations et à un monde binaire où l'islam et la chrétienté seraient condamnés à sa frontière. Je termine par deux petites phrases. 1995, 23 mai, page 227. Je vous demande pas de commenter. Hein. Discours de politique générale d'Alain Juppé. On nous annonçait le retour du politique. C'est plutôt celui des énarques qui n'étaient jamais partis. Juppé m'ennuie et il rase les Français. Et puis,
Nicolas... Je peux ajouter. C'est vrai que je pensais ça.
Ici, j'allais
dire. Non, mais je veux défendre quand même. Je dis aussi que quand conférence des ambassadeurs, quand Juppé redevient ministre des Affaires étrangères, tous les ambassadeurs boivent du petit lait.
Oui.
Mais je discute avec... Bon, j'ai des copains, de nouveaux amis ambassadeurs. Mais je dis, mais qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? Il me dit, quand il parle, c'est comme s'il nous massait. Je trouve ça assez... Bon, Juppé revenait, parce qu'il, naturellement, il sait diriger un ministère, c'est un homme d'État. Hein, donc, il arrivait après deux ou trois épisodes qui n'étaient pas très glorieux pour le ministère, donc il a remis de l'ordre, et tous les ambassadeurs étaient contents. Mais à cette époque-là, après, c'est vrai que je trouvais qu'il...
Après, en particulier, le triste épisode de Douste Blasi au Quai d'Orsay. Mmh. Ça, c'était encore avant. 21 avril 2002, page 526, donc après le fameux coup de tonnerre, comme on a dit, à la télévision, Sarkozy, entre parenthèses, que je n'aime pas, à cause de son livre sur Mandel, produit de pillage à la Jacques Attali. Pour la petite histoire, le livre qui a été honteusement pompé par Nicolas Sarkozy sur Georges Mandel, il a été écrit par l'ancien bâtonnier de Bordeaux, Bertrand Favreau.
Non, je ne savais pas.
Est excellent, vous dites quand même, Sarkozy.
Non, mais bon, je n'aime pas ça, c'est-à-dire...
Vous avez une réactivité toute particulière au plagiat, vous détestez
non,
le plagiat.
Oui, non, mais... Non, mais franchement, ouais. Quand on consacre... Ça, moi, je pense que je donne le meilleur de moi-même à mes livres. Donner le meilleur de soi-même, et je ne suis pas tout seul, tout écrivain digne de ce nom... Il va, c'est un mode de vie, écrire. C'est un mode de vie, c'est un choix. C'est à la fois une allégresse et quand même une souffrance. Parce que c'est pas, je connais rien de plus difficile. C'est ma passion. Je suis très. Mais je connais rien de plus difficile. Donc je donne tout ce que j'ai. Si j'ai de l'intelligence, je la mets. L'énergie, j'en ai, je la mets. Donc je donne tout à mes livres. De voir des hommes politiques et Nicolas Sarkozy est pas le pire. Il a fait qu'une fois, il a jamais recommencé. Bon, qui pille des livres. D'abord, c'est du vol. Il y a des gens qui ont ce bâtonnier qui a écrit ce livre sur Mandel. Il a fait des recherches. Il est allé aux archives. Donc pour moi, c'est incompréhensible. Comment osent-ils faire ça?
Ça fait partie, on va dire, de cette tristesse humaine, alors que vous citez à un moment les qualités, là, FSKI/PFT, F comme Fides, S comme Spes, K pour Caritas, I pour Justitia, P comme Prudentia, F comme Fortitudo et T comme Temperantia. Toutes les vertus théologales et cardinales sont là. Ce que je préfère dans l'exposition, les catalogues, parce que ça, vous l'avez vu dans une exposition de Pisanello.
Merci infiniment. Merci infiniment.